Chapitre 15. C'était une jolie fin d'après-midi. Derrière les ombres du printemps étaient tapis l'été, avec sa chaleur et sa clarté. Megumi, les pieds dans l'eau de l'étang, savourait la vue des arbres et l'odeur des fleurs. À ses côtés reposait un petit sac et la fameuse boîte en fer, couvercle fermé. Elle avait essayé de la réparer du mieux qu'elle pouvait, de redresser le métal tordu avec les outils de son père, de cacher les trous avec des morceaux de ruban adhésif coloré. Mais malgré ses efforts, la boîte n'avait plus rien à voir avec celle que ses parents avaient achetée à Dublin. Une perruche sauvage vint se poser sur le métal, et Megumi observa un moment l'oiseau faire les 100 pas à la surface. Quand enfin il décolla, elle sut que le moment était venu. Elle souleva le couvercle, et Horatio s'échappa comme une longue fumée brillante. « Horatio-san, bonjour !» commença Megumi. « Bonjour, Megumi. J'ai été étonnée que tu ne me salues pas ce matin. C'est que... je réfléchissais encore. À cause de ce qui s'est passé hier ? Oui, mais pas seulement. Je suis vraiment désolée, Megumi. Je crois que je t'attire beaucoup d'ennuis. Avec tes parents, tes professeurs et maintenant tes camarades. Comment ça s'est passé à l'école, aujourd'hui ? Megumi haussa les épaules. Comme on pouvait l'imaginer, Natsu m'avait tout raconté. On s'est moqué de toi ? Megumi baissa la tête. Oui, un peu. Et Akiko n'était pas là pour me défendre. Mais ne vous en voulez pas, Horatio-san. Tu as l'air bien triste. Megumi soupira. Oui et non, Horatio-san. J'ai quelque chose d'important à vous dire. À vous lire, en fait. Je t'écoute. Hier, j'ai reçu une lettre de Saito-sensei. Il a tenu sa promesse. Je vois. Est-ce intéressant ? Oh, que oui. J'allais vous dire de bien vous installer, mais... enfin bref. Elle tira une liasse de son cartable et débuta sa lecture. « Cher Megumi, j'aimerais commencer par te dire à quel point il est émouvant d'avoir fait ta rencontre. J'ai lu les ouvrages de Patrick Hearn sur les fantômes quand j'avais ton âge et l'impact que cette découverte a eu sur mon existence et mes passions fut décisive. Pourtant, malgré mes voyages en Irlande pour en savoir plus sur le passé de mon auteur de chevet, je ne m'étais jamais vraiment intéressée à sa descendance. Sans doute... est-ce un travers très japonais au fond, penser aux morts avant de penser aux vivants. Mais j'en viens à ta question, si curieuse en apparence. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu ne pas être moi-même intriguée par cette coïncidence de nom. Mais il faut comprendre que je m'étais intéressée avant tout à Patrick Hearn et non à ses parents. Toutefois, comme je le pensais, j'avais dans mes notes et mes documents de quoi te répondre. On sait aujourd'hui qu'Horatio Hearn avait utilisé un traitement assez original, à l'époque du moins, pour soigner Catherine Hogarth. Un traitement qui allait devenir la norme quelques décennies plus tard. Mais pour que le traitement agisse, il fallait un environnement favorable. Aussi, la jeune femme fut-elle envoyée dans la ville thermale de Lys Dunvarna. 3 jours après son arrivée, une jeune femme de son âge décéda. Une confusion administrative, chose assez courante en cette partie du XIXe siècle, fit que c'est au père de Catherine Hogarth que l'on envoya le laconique message « Nous avons la douleur de vous informer du décès de votre fille, cette nuit, à 3 heures. Toutes les dispositions, etc. » Fou de chagrin, Hogarth perdit la raison et tint le jeune docteur Horatio Hearn comme responsable de la mort de sa fille. Quelques heures à peine après la réception de la lettre, il se rendit chez les Hearn et abattit froidement le médecin d'un coup de pistolet devant sa femme Melinda et son fils Patrick. Hogarth alla lui-même se rendre à la police et se pendit dans sa cellule avant son procès. Melinda Hearn et Patrick ne revinrent qu'à de rares reprises dans la maison, qu'ils jugeaient désormais maudite. Ils séjournèrent quelque temps auprès de la famille, le temps que l'on récupère leurs biens et qu'ils revendent la bâtisse. « Mais alors, » commença Horatio, « je continue à écouter. » Catherine Hogarth, de son côté, retrouva petit à petit la santé grâce au traitement du docteur Hearn qui, dans ce cadre propice, fonctionnait à la perfection. Le personnel médical s'était bien gardé de lui parler du drame, craignant une rechute. On ne lui en fit part qu'une fois sa guérison acquise. Bien que très affectée par la mort de son père, Catherine Hogarth savait qu'elle devait la vie au docteur Horatio Hearn. Bouleversée par l'annonce de sa mort et à présent seule héritière de l'empire de son père, Catherine Hogarth décida de faire amende honorable en prenant en charge les études du jeune Patrick, pour qui elle devint une sorte de marraine bienveillante. Comme elle devait l'écrire plus tard à Patrick, « Votre père était un homme profondément bon et d'une rare intelligence. Je ne sais si les anges et les démons existent, mais si tel était le cas, le docteur Hearn appartiendrait sans nul doute à la première catégorie. Qui sait où erre son âme aujourd'hui ? Je donnerai tout ce que j'ai pour qu'elle soit libérée, absoute des doutes et de la culpabilité qui ont sali ses derniers instants. Patrick Hearn continua à correspondre avec Catherine Hogarth jusqu'à la mort de celle-ci. Ainsi, Megumi, la bienfaitrice de Patrick Hearn, était bien la même Catherine Hogarth dont le docteur Horatio Hearn avait vu précipiter la mort. Quelle tristesse qu'il n'ait pu savoir qu'il lui avait en réalité sauvé la vie. J'espère que mes éclaircissements te satisferont. Tu es la bienvenue si d'aventure tu voulais que nous en parlions. Mais préviens-moi avant de venir et apporte des croquettes. Héhé, bien à toi. Takeshi Saito. À peine Megumi eut-elle fini de lire la lettre qu'un vent puissant se mit à souffler sur son visage. L'air sembla tout à coup chargé d'électricité, à tel point qu'il en crépitait. Une belle lumière blanche enveloppa Megumi l'espace de quelques secondes. Et puis, la silhouette du fantôme se densifia. On aurait dit un personnage échappé d'un film en noir et blanc, coincé malgré lui dans un monde en couleur. « Horatio-san, qu'avez-vous ? » demanda Megumi. « Je ne sais pas, c'est la première fois que j'éprouve une telle sensation. Je me sens... vivant ?» Le fantôme secoua la tête. « Non, c'est tout le contraire, c'est tout aussi inédit. C'est comme si on m'avait enlevé un poids énorme dont je n'avais même plus conscience. » Le fantôme, l'espace de quelques clignements d'yeux, redevint diaphane. On pouvait voir les branches et le reflet de l'eau à travers son visage dans ses yeux. Il tendit sa main vers la joue de Megumi. Elle ne sentit que la caresse de l'air. « Je crois que vous êtes libre désormais, Horatio-san. Il n'y a plus de malédiction. Vous le sentez, n'est-ce pas ? Et peut-être étiez-vous libre depuis plus longtemps que vous ne le pensiez, car cette malédiction n'a jamais eu lieu d'être. Vous n'êtes plus lié à la terre de votre maison. » Le fantôme fila quelques mètres plus loin, comme une traînée de lumière, puis revint devant Megumi. « Vous êtes heureux alors, Horatio-san ? Je crois bien que oui. Mais ce n'est pas seulement du bonheur, également beaucoup d'appréhension. De l'appréhension et... » Il s'arrêta net. Megumi le regardait avec un immense sourire et les yeux humides. Finalement, elle baissa la tête. « J'aimerais tellement vous garder près de moi, mais la vérité, c'est que cela sera sûrement mieux pour vous si je vous laisse partir. J'y ai beaucoup réfléchi et je crois que Dame Kawauzo n'avait pas tout à fait tort. Aujourd'hui, ce qui vous prive de votre liberté, c'est moi. Ne te reproche rien, Megumi. Tu as ta vie à vivre. Horatio-san. » Elle se jeta contre lui, mais cette fois, au lieu d'embrasser de l'air, elle eut l'impression de coller sa tête contre le moelleux d'une veste en velours, de sentir la chaleur d'un corps. Après un petit moment, elle s'écarta. « Ah, attendez, j'ai apporté quelque chose. » De son sac, elle sortit l'appareil photo instantané que son père avait apporté en Irlande. « Papa l'a modifié pour que l'on puisse se prendre en photo avec un retardateur, » annonça-t-elle. « Je crois qu'il n'existe aucune photo de vous, n'est-ce pas ? J'aimerais bien en prendre une. » « Je te laisse faire, je ne sais pas si je comprends tout ce que tu me dis, » admit le fantôme. Megumi disposa l'appareil sur un petit empilement de pierre, puis l'orienta vers Horatio. Elle appuya sur un bouton et vint vite rejoindre le fantôme. Quelques secondes plus tard, il y eut un clic et le cliché sortit, encore vierge. Elle l'attrapa et le fourra dans sa poche. Le fantôme la regardait en souriant. « C'est le moment, Megumi. » Megumi saisit la boîte, le cœur serré. « Vous n'avez pas peur, Horatio-san ? » ?»« Je suis terrifiée comme jamais, Megumi !» Megumi se pinça les lèvres pour ne pas pleurer. « Tout va bien se passer, Megumi. Je serai toujours là, pas très loin. Vous croyez ?»« J'en suis sûre, je te promets. Je vous aime, Horatio-san. » La silhouette du fantôme se volatilisa et seule la lumière orange persista. La fillette hésita. Et puis... elle se mit à tourner sur elle-même, comme une toupie, en dispersant la terre contenue dans la boîte autour d'elle. Il en tomba dans l'eau, dans l'herbe, le vent en emporta dans les massifs de fleurs. Bientôt, il ne resta plus rien à l'intérieur. Megumi avait le tournis et s'agenouilla. « Horatio-san ? » demanda-t-elle alors. Pas de réponse. « Horatio-san ? » Toujours rien. « Horatio-san !» se mit-elle à crier. Mais le fantôme ne se manifestait pas. Elle courut en direction de l'arbre sous lequel Horatio aimait tant retrouver Kawauso. Mais il n'y avait toujours pas sa chère silhouette en vue, ou sa flamme orange. Alors elle se laissa tomber le long du tronc et, le visage enfoui dans ses bras, laissa échapper un sanglot.
« Qu'ai-je fait ? » gémit-elle.
Plusieurs minutes passèrent avant que quelque chose ne frôle son épaule. Pleine d'espoir, Megumi leva la tête, mais au-dessus d'elle, il n'y avait ni fantôme, ni yokai, mais une petite fille de son âge. C'était Akiko. « Est-ce que ça va, Megumi ?»«
Ça va, » fit la fillette en essuyant ses larmes avec la manche de son uniforme.
« Qu'est-ce que tu fais là ? Tu me suivais encore ?»«
Je te rappelle que tu m'avais dit de venir te rejoindre ici. »
« Oh, c'est vrai, j'avais oublié, excuse-moi. »
Akiko s'assit à côté d'elle.
« Je viens de perdre quelqu'un qui m'était cher, » fit Megumi sans transition.
Akiko rougit.
« Oh, je suis tellement désolée. Est-ce la personne dont tu m'as parlé ?»«
Oui. »
Akiko remarqua alors la boîte en métal vide posée près de Megumi. Celle-ci s'en aperçut, mais Akiko resta discrète et demanda. « Megumi, tu veux peut-être que je te laisse tranquille ?»«
Si ça ne t'ennuie pas,
oui, » répliqua Megumi. « Très bien, nous nous verrons une autre fois. Prends soin de toi, Megumi. »
Akiko s'apprêtait à tourner les talons, mais elle s'arrêta dans son élan et se mit à regarder fixement quelque chose à l'horizon, dans la direction de l'étang. Après un long moment, elle se décida à dire
« Comme c'est charmant !»«
Quoi donc ?» interrogea Megumi.
« Là, regarde !»
À une dizaine de mètres du bord, une loutre s'ébattait joyeusement, faisant des pirouettes, plongeant, sans tenir une seconde en place. Un ray de lumière orange l'auréolait intensément, comme si on avait braqué un projecteur sur elle. Le rayon la suivait dans chacune de ses galipettes aquatiques, anticipant chaque changement de direction, chaque cabriole. D'où pouvait-il bien provenir ? Il semblait ne pas tomber du ciel, mais prendre sa naissance là, à la surface de l'eau. Megumi sentit son cœur se réchauffer et un poids s'envoler de ses épaules.
« Bien, » finit par dire Akiko, « je ne t'embête pas plus longtemps. »«
Attends !» s'exclama Megumi.
« Quoi donc ?
Je peux faire le chemin avec toi ?»«
Bien sûr, mais je pensais que tu voulais être seule. » »«
Ce n'est pas une bonne idée, finalement. Allons le manger ensemble, ce dorayaki. »
Akiko en parut enchantée. Elles débutèrent leur marche, devisant sur la musique, la flûte, l'école et l'été.
« Dis, Megumi, c'est vrai que ton père invente des consoles de jeux vidéo ?» demanda Akiko alors qu'elle s'approchait de la sortie du parc.
« Il est ingénieur, il travaille pour les gens qui font les consoles de jeux, oui. »
« Oh, tu en as une ?»«
Oui, bien sûr. Tu veux venir la voir ?»«
Oh, ça oui !»«
Alors, sois la bienvenue !»
Akiko applaudit tellement elle était enthousiaste. Après quoi, elle prit un air plus grave pour demander.
« Megumi, un jour, tu me raconteras tout ? Ton secret ?»
Megumi ne put s'empêcher de regarder derrière elle. Loutre et lumière avaient disparu. Elle soupira avant de répondre.
« Oui, Akiko, je te raconterai tout. »
« Il faudra notamment que tu me dises qui est sur la photo avec toi. Ce qu'il est beau, ce monsieur !»«
La photo ?
Quelle photo ?
Celle que tu as perdue près de l'eau. Je l'ai ramassée tout à l'heure. J'ai tout de suite vu que c'était toi dessus, avec un bel étranger. Tiens !»
Akiko tendit la photo instantanée à Megumi. Elle l'observa un long moment, puis la serra contre son cœur et la rangea dans sa poche. Elles quittèrent le parc, le cœur léger, laissant derrière elles tout ce qui n'appartenait pas ou plus à leur monde.